bulletin de presse qui est un peu un indicateur de l'état de nos démocraties.
Oui, exactement. Et j'ai une petite question. Est-ce que parfois vous allez voir des expos le week-end ?
Ouais,
parce qu'il y en a une que j'ai vue, que je vous conseille vraiment. C'est celle de Pierre Kroll, au Rouge Cloître à Bruxelles. Il présente un certain nombre de dessins, et notamment une série de croquis sur le Covid, qui nous rappelle de mauvais souvenirs, ouais. Et qui sont extrêmement drôles aussi. J'y suis allée avec mes enfants, et on a beaucoup aimé. Ce qui est magique avec un dessin de presse, c'est qu'on est en un seul coup, tout est là. L'époque, les personnages, l'ambiance, on comprend ce qui se trame et cela va susciter une réaction, la joie, l'indignation, la colère. Et j'ai quitté cette expo en me disant « heureusement qu'ils sont là, ces dessins, car l'actualité serait bien plus anxiogène si l'on n'avait pas ces sas de respiration qui croquent les travers de nos sociétés, tout en y apportant aussi de la nuance. Et une démocratie qui va bien, c'est une démocratie où l'on peut critiquer ceux et celles qui nous gouvernent. Même en dessin. Et en Belgique, on a bien de la chance d'avoir des Krolls, des Vado ou des lecteurs à qui les rédactions laissent une vraie liberté de ton. Et c'est important de le rappeler, même si beaucoup de dessinateurs et dessinatrices sont attachés à des rédactions, parce que en réalité, beaucoup n'ont pas de CDI. Ils peuvent être licenciés du jour au lendemain. Et ce n'est pas anodin. Mais cette précarité, paradoxalement, garantit aussi une forme de liberté.
Mais pourtant, le dessin de presse, si je ne m'abuse, ne va pas très très bien en ce moment.
Non, malheureusement. Et le dernier rapport de Cartoonists for Peace et Cartoonists Rights, deux organisations qui représentent les dessinateurs et dessinatrices de presse à travers le monde, pointe un certain nombre de menaces assez inquiétantes qui pèsent sur la profession. Entre juin 2023 et juin 2025, le rapport a recensé 87 cas de menaces envers les dessinateurs et dessinatrices, et c'est beaucoup pour une profession où ils sont déjà très peu nombreux. Et la nouveauté, c'est que ce ne sont plus seulement des pays traditionnellement autocratiques comme la Chine, l'Iran, la Russie ou l'Afghanistan qui sont épinglés. On retrouve désormais des pays dits démocratiques, comme les États-Unis.
Vous parlez de menaces. Quelles menaces ?
Ben, on parle de pression politique, de poursuites judiciaires, de menaces en ligne, de refus d'accréditation. Autant de menaces qui instaurent un climat de peur et qui aboutissent à une forme d'autocensure par crainte de représailles. Et l'un des cas emblématiques de cette autocensure, c'est celui de la dessinatrice américaine Anne Telness. Alors Anne Telness, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une figure majeure du dessin de presse aux États-Unis. Elle a d'ailleurs reçu le prix Pulitzer du dessin de presse. Elle travaillait au Washington Post depuis 2008, ce journal à l'origine du Watergate, également détenu par Jeff Bezos, le patron d'Amazon, on en a déjà parlé. Et l'an dernier, elle s'est vue pour la première fois refuser un dessin. Et ce dessin est représenté un temple en l'honneur de Donald Trump. Et à ses pieds se trouvaient des figures de la tech, Sam Altman de OpenAI, Jeff Bezos d'Amazon et Mark Zuckerberg de Meta. Et ils offraient au président américain des sacs d'argent. Il y avait aussi même un Mickey qui se prosternait au nom de Disney sur ce dessin. Donc en fait, une satire du pouvoir et des relations entre politiques et grandes entreprises finalement. Normalement, pour une rédaction, demander à une dessinatrice de faire quelques petites modifications pour la compréhension des lecteurs, c'est tout à fait possible et ça arrive tout le temps. Mais par contre, là, c'est le sujet qui n'allait pas, et en 17 ans de carrière, Anne Telness n'avait jamais vu ça et elle a démissionné sur le champ. Autre exemple plus proche de nous, le magazine Leman en Turquie. C'est l'un des plus anciens magazines satiriques, l'équivalent de Charlie Hebdo en France. Et il a vu sa publication suspendue et une partie de la rédaction arrêtée l'été dernier suite à la publication d'un dessin de Dogan Pelevan, lui aussi arrêté, qui représentait l'âme d'un musulman décédé nommé Mohamed et celle d'un juif nommé Moïse qui se saluait au-dessus d'une ville bombardée. Et ils ont été accusés d'avoir dénigré les valeurs religieuses.
Mais ces menaces sur les caricaturistes, c'est nouveau ou ça se faisait déjà avant ou...
Ah non, effectivement, ça date pas d'hier. Il y a notamment un événement qui a bouleversé, c'est l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015, qui a coûté la vie à 12 personnes, dont une grande partie de la rédaction. Cette tuerie, ça a été un véritable traumatisme pour les dessinateurs de presse, et puis en fait pour toute la profession journalistique. Ce qui a été central à l'époque, c'est que Charlie a décidé, malgré tout, de poursuivre ses publications. On écoute la dessinatrice de Charlie Hebdo, Coco, qui a échappé au massacre, au micro de Régine Dubois dans l'émission Les Petits Papiers sur la RTBF.
J'ai côtoyé des êtres vraiment exceptionnels, des talents vraiment incroyables à Charlie, et on les a assassinés lâchement. Ces terroristes les ont assassinés lâchement. C'était vraiment quelque chose d'épouvantable. Je pouvais pas ne pas continuer ça, continuer le journal et continuer à m'exprimer et à défendre ça parce que les terroristes pouvaient pas avoir gagné ça aussi, ils pouvaient pas. Pour moi, c'était la réponse, c'était vital de le faire.
C'est une forme de loyauté aussi par rapport à ceux qui ne sont plus là.
Bien sûr, moi on vit avec ce traumatisme, et les morts sont toujours là avec nous.
Le sénateur estime qu'une certaine forme d'insouciance du dessin de presse a disparu. Pour vous donner une idée, en France, toute la rédaction de Charlie vit sous escorte policière, et cela va même plus loin, car même Plantu, l'ancien dessinateur du Monde, bénéficie lui aussi de cette protection.
L'émission cartooniste For Peace, il y avait un élément dans ce rapport qui était quand même aussi assez étonnant. C'est lorsqu'il parle du déclin des médias traditionnels et de l'impact sur le dessin de presse.
Ben c'est exact, il y a de fait moins de place pour le dessin de presse. Et au-delà de la crise que traversent les médias traditionnels et notamment la presse papier, il faut noter aussi le switch des nouvelles générations de lecteurs et lectrices vers les médias en ligne et les réseaux sociaux. D'ailleurs, les dessinateurs s'adaptent aussi à ces nouvelles exigences en publiant davantage sur les réseaux, y compris des dessins qui ont été retoqués par les rédactions. Mais ils s'exposent aussi à davantage de menaces. Le rapport indique que 75% des dessinateurs et dessinatrices déclarent avoir subi des violences en ligne. C'est énorme. Et 2/3 des dessinatrices disent avoir reçu des commentaires misogynes. Puis, il y a la suppression pure et simple de certaines publications ou la suspension de comptes par les plateformes. Et enfin, les dessinateurs sont confrontés à la menace grandissante de l'intelligence artificielle. Alors, ils restent vigilants, car finalement, l'intelligence artificielle, elle va se nourrir de leurs propres dessins. Donc, il s'agit aussi d'éviter de les partager. Et puis, bon, pour le moment, la qualité n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais cela reste une menace.
Mais du coup, est-ce que le dessin de presse a un avenir ?
Mais j'ai envie de croire que oui, parce que le dessin fait partie de notre histoire depuis toujours et que les dessins de presse participent à un travail de documentation de notre époque. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra se sentir offensé par un dessin, mais une démocratie, c'est cela aussi. C'est le droit de défendre ses idées et de débattre. Et Kroll utilise la métaphore du canari au fond d'une mine pour décrire un dessinateur de presse, et je la trouve excellente.
Les mineurs qui descendaient dans le fond des mines avaient, paraît-il, souvent avec eux un canari dans une cage. Parce que le canari, il chante, et puis quand il arrête de chanter brutalement, c'est qu'il y a un gaz toxique auquel il est sensible avant nous. Il y a du grisou, alors il fallait remonter dardard. Mais si vous prenez l'histoire de Antelnas, donc cette dessinatrice, donc Antelnas qui claque la porte, elle n'est pas virée, en fait, c'est à peu près au même, au Washington Post, parce que pendant 17 ans, elle n'a jamais refusé un dessin, et que la première fois qu'elle met Bezos dans un dessin, on lui refuse. Quand je parle des canaris dans la mine, ça c'est arrivé il y a un an, 13 mois je crois, son départ. Et le mois dernier, vous avez appris, comme moi, que le Washington Post a licencié 300 journalistes. Voilà. Comme par hasard, ceux qui travaillent au Moyen-Orient, comme par hasard, il y a une guerre qui s'y passe maintenant. Voilà. Donc le canari dans la mine était tout à fait vrai. Antenna, c'était un petit canari, quoi.
Et le dessin de presse, c'est ça. Le jour où le canari se tait, c'est rarement bon signe pour la démocratie.
Merci.